l'artichaut.
C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art.
Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de RDUA. On se retrouve pour un nouvel artichaut avec Carotte dans nos locaux. Comment ça va, Carotte ?
Super bien, merci Jeanne. Bah, je suis trop contente de faire cette émission avec toi. Ça change. En plus, t'es habillée en toute petite panthère, c'est trop mignon.
Ah là là.
Il fait beau, on est bien. Et aujourd'hui, pour mettre un peu de baume sur les cœurs, je vais vous raconter l'anarchie comme à des enfants. Parce que je pense que entre le fric, la bouffe et le cube, hein, on oublie de parler de grands mouvements de pensée, de philosophie, qui n'ont malheureusement jamais été essayés. Et pour illustrer mon propos et vous permettre d'avancer avec moi dans cette pensée philosophique, cette co-création d'un nouveau monde. Et ben Jeanne, je te demande de mettre Coluche, qui est pour moi la star de l'anarchisme réussi actif dans son merveilleux sketch qui s'appelle Misère.
Allez, on écoute ça.
Je vous préviens tout de suite, mes chansons passent pas radio ni télévision, mais on n'a rien à foutre. Il y a quelque chose à dire. C'est pas comme mes chansons qui passent à radio ou télévision. Hein. Paf, dans la gueule, on a foutre. Pas m'emmerder, puis c'est tout. Face à la télévision, je chante des conneries, des conneries et des conneries. Paf, dans la gueule. Et tout ça pourquoi? Pour faire du fric, du fric et du fric. Et qu'est-ce qu'ils en font, du fric? Qu'est-ce qu'ils en font, du fric? Je vais vous le dire, moi. Ils le dépensent. Salaud. Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean sur la musique de Pierre Bénichou et Marie Grospierre. Misère. De toute façon, ça a pour durer parce que, attention, attendez que la gauche pense, vous allez voir, en 2012. Attendez que la gauche pense, vous allez voir. Mireille Mathieu, tout ça, tous les mêmes qu'on. Au goulag ! Allez, allez ! Et tricoter les pulls à verre du luxe. Avec des manches longues. Fait pas froid au coude. Au coude. Violence. Non, parce que ça va être interdit, c'est trop facile. Si on passe tout le temps les mêmes à la télévision, alors si on écoute tout le temps que les conneries, que les conneries, que les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas responsable et raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère. De Jean-Louis Chotard à Gérard Grandjean, sur la musique de Pierre Bénichou et Marie Grospierre. Misère. Misère, misère. C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère. Ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère. Tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris. Des pourris, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Convenons-en, convenons. Vous dérangez pas, j'ai l'habitude.
Wow, bah merci beaucoup Carotte pour ce petit extrait partagé.
Bah, je t'en prie. Mais voilà, moi j'ai fait toute ma vie sur celle de Coluche en fait. Enfin, ma vie politique. Et il reste le modèle, il est l'exemple. Donc pour information, bah, les Restos du Cœur, donc les chiffres que j'ai, c'est 2017-2018, ils ont quand même donné à manger 130 millions de fois. Ils ont servi 130 millions de repas. Donc, ben voilà, bravo. Et oui.
Bravo,
ben,
et...
bien sûr, le destin de Coluche sur une vraie justice sociale s'est fracassé contre un camion. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à l'écouter parce que ben voilà, moi je savais que si on n'avait pas Coluche comme président en 81 ou en 86, ben c'était mort quoi. Et ben voilà, du coup, ben on est sur la suite horrible de ça. Et on n'a pas écouté. Alors, mes chéris, je vais vous demander d'écouter ce que j'ai à vous dire, parce que je pense que tout le monde se demande pourquoi le monde va si mal, alors que finalement, on a une expérience de notre humanité qui est multiséculaire, et que tous les problèmes politiques, démographiques auraient déjà dû être résolus presque dans des autres vies, en tout cas, dans un univers en paix, qui saurait utiliser l'abondance terrestre, travailler avec la Terre, sans cesser de la revitaliser. Et pourtant, ben, il faut bien se l'avouer, l'exploitation généralisée est le mot d'ordre global. Une exploitation abjecte, démesurée, inutile de l'homme sur la flore, la faune, la femme, bien sûr, et de l'homme sur l'homme. Alors, ô être de lumière qu'ont-il fait de toi, créature d'intelligence, rabaissée à un état de bête, d'inconfortable salarié anonyme qui est pressé, taxé, harcelé, humilié et enfin jeté pour nourrir les rangs affamés des anciennes classes moyennes qui deviennent cloches. Et comment penser politique quand les discours assénés par les pros de la chose publique qui sont des incompétents et des incapables, et quand ils ne sont pas des professionnels du barreau, évidemment, sont les spécialistes de la propagande d'extrême droite pour machine à laver nos cerveaux. Hein. Donc, il faut bien se rappeler qu'en 89, en 1989, ce qui n'est pas si loin, quand le mur de Berlin est tombé, dans la liesse générale, il a emporté dans sa chute tout le bloc de l'Est. Et donc, ce sont finalement toutes les gauches qui ont sombré avec ce mur. Le mouvement ouvrier, dans son ensemble, ne manquait pas de penseurs révolutionnaires, ni de mouvements engagés. Donc, des mots qu'on entend peu, mais donc existent le marxisme, le léninisme, le trotskisme. Alors, pour petite histoire, Trotsky a été l'amant de Frida Kahlo juste avant son assassinat à Mexico. Donc, il y a toujours eu des révolutionnaires, des libertaires, des idéalistes, des anarchistes. Et j'en passe. Et en fait, il y a eu bien plus de mouvements de gauche que la droite n'a jamais pu en produire. Parce que finalement, l'argent, la préservation du capital dans les mêmes mains, ça ne demande aucune intelligence politique et bien sûr aucune intelligence sociale particulière. Et bref, donc rien ne nécessite désormais plus l'accord de tout un peuple. Donc grâce à eux, ces penseurs, ces révolutionnaires, ces libertaires, ces anarchistes, on sait néanmoins qu'il existe des tas d'alternatives. Elles sont très nombreuses, mais elles n'ont jamais vraiment été essayées pour une république sociale équitable qui reste aujourd'hui à inventer, Jeanne. Et il faut tous qu'on la co-crée, cette république sociale. Et pour ma part, moi, je crois en l'anarchie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anarchie ? Donc, c'est l'ordre sans le pouvoir d'un gouvernement. Et le pouvoir, ben on a bien vu, il vaut mieux s'en passer, puisqu'on sait que le pouvoir corrompt et que le gouvernement. Alors, on va parler un peu de Pierre-Joseph Proudhon. C'est lui qui a inventé ce terme de l'anarchie. Donc lui, il est né le 15 janvier 1809 à Besançon, dans le Doubs, et il est mort le 19 janvier 1965 à Paris. Il est qualifié de polémiste, journaliste, économiste, philosophe, et sociologue français. C'est le précurseur de l'anarchisme. Donc l'anarchisme, ça s'écrit avec un petit a minuscule. Il est le seul théoricien révolutionnaire du 19e siècle à être issu du milieu ouvrier. Donc je pense que sa parole est intéressante. Donc c'est un autodidacte, et c'est lui qui a pensé pour la première fois le socialisme libertaire, non étatique. Il est partisan du mutualisme et du fédéralisme, et il est le premier à se réclamer anarchiste en 1840. Partisan de l'anarchie, et ça, faut l'entendre à son sens positif. La liberté et l'anarchie, parce qu'elle n'admet pas le gouvernement de la volonté, mais seulement l'autorité de la loi, c'est-à-dire celui de la nécessité. Donc en fait, ça veut dire qu'on est capable d'accepter toutes les lois qui nous semblent justes pour un équilibre social et la paix, évidemment, la liberté s'arrêtant là où commence celle des autres. Donc comment délimiter toutes ces libertés ? Ben, c'est en se mettant tous d'accord sur un système de loi qu'on comprend et dont on comprend les mécanismes parce qu'ils sont là pour protéger la paix, pour protéger l'équilibre social.
Oui, mais malheureusement, en fait, il ne se passe pas du tout ça de base, et je pense que ça peut être très compliqué à mettre en place parce que justement, les lois, Et il y en a qui sont faites pour nous protéger et tout, hein, bien sûr, mais il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas de sens.
Il y en a beaucoup qui n'ont pas de sens, parce que là, les lois européennes, il paraît que pour toutes les lire, il faudrait passer 7 ans. Donc il y a déjà aussi cet amoncellement, cette accumulation de lois dont on n'a pas connaissance et dont, de toute façon, on ne peut pas avoir connaissance tellement elles sont nombreuses et qu'elles nous dépassent, quoi. Bon, du coup, alors ce fameux Proudhon, il est quand même l'auteur de plus de 60 livres. Et donc, en 1840, son premier ouvrage, qu'est-ce que la propriété ? Ou recherche sur le principe du droit et du gouvernement. Donc, c'est lui qui va rendre célèbre la formule, la propriété, c'est le vol. Alors, c'est rigolo parce que quand tu vois, par exemple, on parle des gros propriétaires terriens, féodaux qui avaient au Mexique, quand on voit les frontières américaines toutes carrées et qu'on sait que donc c'est des terrains qui ont été achetés, quand on voit Elon Musk qui veut vendre la Lune, on s'aperçoit que c'est complètement délirant. Donc, pour une planète qui n'est pas la nôtre ou un continent qui n'est pas le nôtre, c'est très facile de se dire « Oh là là, mais ils vont trop loin ». Quand on lit Lucky Luke des barbelés sur la prairie et qu'on voit comment tous les gros propriétaires terriens ont commencé à empêcher les mouvements des animaux et des vaches et des cow-boys et des bisons. Enfin, ces aberrations-là, on voit chez les autres. Mais quand on dit à nous, la propriété chez nous, la Terre, en fait, la Terre, elle n'est pas un peu à tout le monde, exactement comme la Lune ou Mars, je ne sais pas. Donc, en 1946, il va écrire un système des contradictions économiques ou philosophiques de la misère. Donc, c'est une explication de la société qui est fondée sur l'existence de réalités contradictoire, c'est-à-dire que la propriété manifeste l'inégalité, mais est l'objet même de la liberté. Le machinisme accroît la productivité, mais détruit l'artisanat et soumet le salarié, par exemple. La liberté elle-même est à la fois indispensable, mais aussi cause d'inégalité. Il ne faut pas oublier que la liberté, c'est un thème philosophique. Donc déjà, peut-être il sera intéressant de se mettre tous un peu d'accord sur la définition de ce qu'est la liberté et de le faire d'un point de vue universel et global. En 1948, dans « Solution du problème social », il va élaborer le premier la théorie du crédit à zéro. Il va anticiper le fonctionnement des mutuelles d'aujourd'hui. Il va imaginer la création d'une banque d'échange qui va appeler banque du peuple et dont le but est l'abolition de la monnaie, du salariat, la suppression de toute prise d'intérêt et de toute réalisation de profit dans le cadre des structures d'échange entre les individus. C'est quand même puissant.
C'est balèze, ouais.
En 1849, il imagine la création de cette banque et ensuite il va faire les confessions d'un révolutionnaire pour servir à l'histoire de la révolution de février. Et c'est là-dedans qu'il va écrire « L'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir ». Ensuite, ça continue. En 1858, donc comme il est profondément anticlérical, évidemment, dans « La justice, dans la révolution et dans l'Église », c'est une véritable somme contre l'Église de son temps. Donc, il va prôner l'abolition de toutes les formes de pensée et d'organisation ecclésiastique au profit des formes égalitaires anti-hiérarchiques. En 1863, il écrit « Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la Révolution ». Et en 65, il écrit de la capacité des classes ouvrières. Donc ce gars-là, quand on travaille et quand on est mécontent de son travail et de la façon dont on est payé et de la façon dont on est taxé, je pense qu'il faut relire vraiment ces livres-là et les avoir comme livre de chevet, quoi. Donc, il est un des premiers théoriciens du fédéralisme, entendu non pas seulement comme une libre association des communes, mais comme un point de jonction entre l'industrie et la campagne, c'est-à-dire lier dans un même élan l'ouvrier et le paysan. En 1863, dans « Les démocrates assermentés et les réfractaires », il pose les bases du refus de toute participation aux élections lorsqu'elles sont truquées, dévoyées par le pouvoir, détourné par le système du féodalisme-capitalisme, manipulé par ceux qui font et défont les cartes électorales. Alors, il ne condamne pas la démocratie ou le suffrage universel en eux-mêmes, mais il condamne leur manipulation par les intérêts du capitalisme et de l'État. Alors, à ce propos, j'ai regardé sur YouTube un documentaire qui s'appelle « L'affaire d'État du prince de Broglie ». Et en ce moment, c'est rigolo parce qu'il y a Sarkozy, il y a le procès Sarkozy-Kadhafi. Et donc, là, c'est les années du pompidolisme. Il n'y a pas encore vraiment de loi concernant l'argent qui est donné aux partis avant les élections. Du coup, tout est un peu possible. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est que Valéry Giscard d'Estaing, c'est la monarchie. Tous les mecs qui sont autour, c'est des nobles, c'est des princes. C'est le prince Poniatowski, c'est le prince de Broglie. Et dans le premier cercle, autour du futur président de la République française, c'est de la royauté, mais pure et dure. Et bon, il a été buté, évidemment. Hein, donc après, on a donc, enfin bon, c'est super intéressant de voir ça et en même temps de suivre le procès du financement de Sarkozy par Kadhafi. Parce que c'est les mêmes systèmes, en fait. Simplement, les lois changent et ils vont creuser plus loin. Mais je veux dire, par rapport à ces élections truquées par le pognon au profit de ceux qui ont le pognon, c'est vieux comme le monde. En fait, on n'est toujours pas sorti d'un même modèle qui est celui de la royauté de Louis XIV, quoi. Et bon, je pense que là, franchement, c'est pas qu'on est chaud aux miquettes, mais comme évidemment, il y a le réchauffement climatique et que c'est ça devrait être ça notre priorité, parce que c'est ça qui va gérer vraiment le grand bouleversement, le grand chambardement humain universel. Bon, c'est vraiment assez dramatique. Mais ce que je veux dire, c'est que des penseurs anciens nous ont donné les clés de ça. En fait, il y a des choses qui n'ont jamais été essayées et qui sont écrites noir sur blanc. En fait, il y a déjà des recettes à essayer. Donc, je voudrais justement, toi, fidèle auditeur qui écoute ce post et qui est... sidéré par tout ce qui se passe, voilà, retournons à la bonne lecture. Laissons tomber ces petites provocations, parce que moi, je vais quand même t'avouer, je crois que, par exemple, il y aura la sécession, une guerre de sécession aux États-Unis avant même qu'on ait lancé un nouveau service militaire obligatoire en France. Ouais, hein, je t'assure, parce que là, franchement, les gens, ils scient la branche, tout le monde scie la branche sur laquelle il est assis. Et franchement, je pense qu'il faut rester neutre, mais... aller s'éduquer. Il faut aller s'éduquer à la politique, se rééduquer à la chose publique qui est la politique. Donc, on va faire un petit break. Là, on a prévu les moutons de Gotenner. Ça va tout à fait avec la chose politique.
Allez, on écoute ça. Merci Carotte pour cette découverte bien décalée. Si vous venez de nous rejoindre, on est sur RDIWA 100.7, sur RDIWA 107.5.
Non, 100.7.
Voilà, merci. Sur RDIWA 100.7, j'étais à 10 ce matin, c'est pour ça. Et on est dans l'artichaut, du coup on va continuer avec toi Carotte.
on va continuer avec moi. Non mais quand tu vois, on réécoute Coluche, quand il dit, quand on pense que si les gens ne les achetaient pas, ça ne se vendrait pas. Tu vois, là on est en plein boycott, là il faut boycotter tous les produits américains, il faut être actif. En tant que consommateur, c'est là qu'on est le plus actif, parce qu'on les touche directement au portefeuille. C'est là qu'il faut les emmerder. Alors, deuxième portrait, d'ailleurs portrait que j'ai peint parce que je l'adore, il est magnifique, c'est Ravachol. François Claudius Königstein dit Ravachol, le rocambole de l'anarchisme. Donc lui, c'est un ouvrier militant, anarchiste français. Il est né le 14 octobre 1859 à Saint-Chamond. Et donc, il s'est rendu coupable de plusieurs délits, assassinats et attentats, et donc bien puni. Il a été guillotiné le 11 juillet 1892 à Montbrison. Lui, c'est un pur enfant de la commune. Donc, je vais vous lire le texte qu'il a écrit à son procès. On va le lire jusqu'au bout, et puis après, vous allez prendre tout un jour pour y réfléchir. Si je prends la parole, ce n'est pas pour me défendre des actes de ton m'accuse, car seule la société, qui par son organisation met les hommes en lutte continuelle les uns contre les autres, c'est cette société qui est responsable. En effet, ne voit-on pas aujourd'hui dans toutes les classes et dans toutes les fonctions des personnes qui désirent, je ne dirais pas la mort parce que cela sonne mal à l'oreille, mais le malheur de leurs semblables, si cela peut leur procurer des avantages. Exemple, un patron ne fait-il pas des vœux pour voir un concurrent disparaître ? Tous les commerçants en général ne voudraient-ils pas, et cela réciproquement, être les seuls à jouir des avantages que peut rapporter ce genre d'occupation ? L'ouvrier au chômage ne souhaite-t-il pas pour obtenir du travail que pour un motif quelconque, celui qui est occupé soit rejeté de l'atelier ? Eh bien, dans une société où de pareils faits se produisent, on n'a pas à être surpris des actes dans le genre de ceux qu'on me reproche et qui ne sont que la conséquence logique de lutte pour l'existence que se font les hommes qui, pour vivre, sont obligés malheureusement d'employer toute espèce de moyens. Et puisque chacun est pour soi, celui qui est dans la nécessité n'en est-il pas réduit à penser ? Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je n'ai pas à hésiter lorsque j'ai faim à employer les moyens qui sont à ma disposition, au risque de faire des victimes. Les patrons, lorsqu'ils renvoient des ouvriers, s'inquiètent-ils qu'ils vont mourir de faim, eux et leurs familles ? Tous ceux qui ont du superflu s'occupent-ils de savoir s'il y a des gens qui manquent des choses nécessaires ? Il y en a bien quelques-uns qui donnent des secours, mais ils sont impuissants à soulager tous ceux qui sont dans la nécessité et qui mourront prématurément par suite des privations de toutes sortes, ou volontairement d'ailleurs par suicide de tout genre, pour mettre fin à une existence misérable et ne pas avoir à supporter les rigueurs de la faim, les hontes et les humiliations sans nombre et sans espoir de les voir finir. Ainsi ont-ils la famille Haïm et la femme Souin qui a donné la mort à ses propres enfants pour ne pas les voir souffrir plus longtemps, et toutes les femmes qui, dans la crainte de ne pouvoir nourrir un enfant, n'hésitent pas à compromettre leur santé et leur vie en détruisant dans leur sein le fruit de leurs amours. Et toutes ces choses se passent au milieu de l'abondance de toute espèce de produits. On comprendrait que cela ait lieu dans un pays où les produits sont rares, où il y a la famine. Mais en France, où règne l'abondance, où les boucheries sont bondées de viande et les boulangeries de pain, où les vêtements, les chaussures sont entassés dans les magasins et où il y a des tant de logements inoccupés. Comment admettre que tout est bien dans la société quand le contraire se voit d'une façon aussi claire et limpide ? Il y a bien des gens qui plaindront toutes ces victimes, mais qui vous diront qu'ils n'y peuvent rien, que chacun se débrouille comme il peut. Que peut-il faire celui qui manque du nécessaire en travaillant s'il vient à chômer ? Il n'a qu'à se laisser mourir de faim ? Alors on jettera quelques paroles de pitié sur son cadavre ? C'est ce que j'ai voulu laisser à d'autres. J'ai préféré me faire contrebandier, faux-monnayeur, voleur, meurtrier et assassin. J'aurais pu mendier, mais c'est dégradant et lâche, et c'est même puni par vos lois qui font un délit de la misère. Si tous les nécessiteux, au lieu d'attendre, prenaient où il y a et par n'importe quel moyen, les satisfaits comprendraient peut-être plus vite qu'il y a danger à vouloir consacrer l'état social actuel, où l'inquiétude est permanente et la vie menacée à chaque instant. On finira sans doute plus vite par comprendre que les anarchistes ont raison lorsqu'ils disent que pour avoir la tranquillité morale et physique, il faut détruire les causes qui engendrent les crimes et les criminels. Ce n'est pas en supprimant celui qui, plutôt que de mourir d'une mort lente par suivre des privations qu'il a eues et aurait à supporter, sans espoir de les voir finir, préfère, s'il a un peu d'énergie, prendre violemment ce qui peut peut-être lui assurer le bien-être, même au risque de sa mort, qui ne peut être qu'un terme à ses souffrances. Alors voilà pourquoi j'ai commis les actes que l'on me reproche et qui ne sont que la conséquence logique de l'état barbare d'une société qui ne fait qu'augmenter le nombre de ses victimes par la rigueur de ses lois qui sévissent contre les effets sans jamais toucher aux causes. On dit qu'il faut être cruel pour donner la mort à son semblable, mais ceux qui parlent ainsi ne voient pas qu'on ne s'y résout que pour l'éviter soi-même. De même, vous, messieurs les jurés, qui sans doute allait me condamner à la peine de mort parce que vous croirez que c'est une nécessité et que ma disparition sera une satisfaction pour vous qui avez horreur de voir couler le sang humain, mais qui, lorsque vous croirez qu'il sera utile de le verser pour assurer la sécurité de votre existence, n'hésiterez pas plus que moi à le faire, avec cette différence que vous le ferez sans courir aucun danger, tandis que moi, au contraire, j'agissais aux risques et périls de ma liberté et de ma vie. Eh bien, messieurs, il n'y a plus de criminels à juger, mais les causes du crime à détruire. En créant les articles du Code, les législateurs ont oublié qu'ils n'attaquaient pas les causes, mais simplement les effets, et qu'alors ils ne détruisaient aucunement le crime. En vérité, les causes existant, toujours les mêmes effets en découleront. Toujours il y aura des criminels, car aujourd'hui vous en détruisez un, et demain, 10 naîtront. Que faut-il alors ? Détruire la misère, ce germe de crime, en assurant à chacun la satisfaction de tous les besoins. Et combien cela est facile à réaliser. Il suffirait d'établir la société sur de bases nouvelles, où tout serait en commun et où chacun, produisant selon ses aptitudes et ses forces, pourrait consommer selon ses propres besoins. Alors on ne verra plus des gens comme l'ermite de Notre-Dame de Grâce et autres mendiers, un métal dont ils deviennent les esclaves et les victimes. On ne verra plus les femmes céder leurs appâts comme une vulgaire marchandise en échange de ce même métal qui nous empêche bien souvent de reconnaître si l'affection est vraiment sincère. On ne verra plus des hommes comme Pranzini, Prado, Berland, Anastè et d'autres qui, toujours pour avoir ce métal, en arrivent à donner la mort. Cela démontre clairement que la cause de tous les crimes est toujours la même et qu'il faut vraiment être insensé pour ne pas la voir. Alors oui, je le répète, c'est la société qui fait les criminels. Et vous, jurez, au lieu de les frapper, vous devriez employer votre intelligence et vos forces à transformer la société. Du coup, vous supprimeriez tous les crimes et votre œuvre, en s'attaquant aux causes, serait plus grande et plus féconde que n'est votre justice qui s'amoindrit à punir les effets. Moi, je ne suis qu'un ouvrier sans instruction. Mais parce que j'ai vécu l'existence des miséreux, je sens mieux qu'un riche bourgeois l'iniquité de vos lois répressives. Où prenez-vous le droit de tuer ou d'enfermer un homme qui, mis sur terre avec la nécessité de vivre, s'est vu dans la nécessité de prendre ce dont il manquait pour se nourrir ? J'ai travaillé pour vivre et fait vivre les miens. Tant que ni moi ni les miens n'avons pas trop souffert, je suis restée ce que vous appelez honnête. Puis le travail a manqué et avec le chômage est venue la faim. C'est alors que cette grande loi de la nature, cette voix impérieuse qui n'admet pas de réplique, l'instinct de la conservation, me poussa à commettre certains des crimes et délits dont vous me reprochez et dont je reconnais être l'auteur. Jugez-moi, messieurs les jurés, mais si vous m'avez compris, en me jugeant, jugez tous les malheureux dont la misère, alliée à la fierté naturelle, a fait des criminels et dont la richesse, dont l'aisance même, aurait fait des honnêtes gens. Une société intelligente en aurait fait des gens comme tout le monde. Ravachol.
Waouh! Franchement, c'est moi je trouve ça puissant et puis aussi malheureusement on punit toujours les mêmes encore à l'heure d'aujourd'hui.
Modernité, ouais, c'est incroyable de se dire que ça date encore du 19e siècle et que tout est dit. Donc tout est toujours pareil. C'est juste que maintenant les petits sont plus nombreux. Donc ces histoires aussi. La loi du plus fort est toujours la meilleure, le plus grand, le plus gros, c'est celui qui gagne et qui a raison. Non, mais c'est pas vrai. Dans la nature ne fonctionne pas du tout comme ça. La nature, elle co-crée, elle mutualise, elle interdépendantise les choses. Enfin, animaux, faune, fleurs, ils savent tous qu'ils sont interdépendants. Et donc, ils coopèrent ensemble, ils collaborent. Alors, on va revenir sur les trois principaux courants anarchistes. Alors, on a les anarchistes individualistes, qui pensent qu'on ne changera la société qu'en la faisant péter. Les anarchistes syndicalistes, qui pensent qu'on ne changera la société qu'en faisant la grève. Et les anarchistes illégalistes, qui pensent qu'on ne changera la société qu'en volant aux riches pour donner aux pauvres. Bon, de mon point de vue, les trois anarchies utilisées toutes simultanément auraient toutes les chances de provoquer un bien grand positif changement. Alors, tous sont d'accord pour faire vivre ce changement radical en eux, se changer à l'intérieur pour échapper au formatage social. Et tous vont donc réduire leurs besoins de consommation. Et donc, par conséquent, les anarchistes que je connais, et qui sont souvent des illégalistes, se tiennent éloignés des vices, des boissons, du tabac, des femmes. Les femmes, d'ailleurs, sont très bien présentes dans leur rang. Elles sont aimées, elles sont respectées et entendues. Et ils ont des vies personnelles plutôt intègres. Ils sont habités d'un courage hors du commun et d'une audace démesurée, car bien sûr, ils ne craignent pas la mort. Alors, on va parler de la bande à Bono parce que c'est un tableau que j'ai peint et qui est très représentatif de ce qu'il faut pour commencer à faire un réseau anar et être efficace et commencer à pouvoir un peu changer son petit monde. Donc, les membres de la bande à Bono, en fait, il y a une cinquantaine de personnes. Ils étaient tous pourvus d'une petite fiole de strychnine qu'ils devaient avaler avant d'être pris. Et donc, Raymond Lascience a s'est fait abattre à un moment donné par l'inspecteur et il avait dit « si vous m'aviez laissé 2 minutes de plus, la boisson, le poison était pour moi et la balle était pour vous ». Donc ces dégâts, hop, s'ils se font choper par la police, avant même, ils se balancent leur petite fiole de strychnine pour ne pas balancer l'équipe et la communauté. La solidarité et le soutien sont omniprésents chez tous les anarchistes et les liens tissés entre eux sont indéfectibles. Alors, ils ont des multiples planques, ce qui ne va pas faciliter la tâche de la police. Et bon, il y aura toujours, bien sûr, des indicateurs, des infiltrés, mais ils ont toujours une longueur de retard. Les anarchistes sont souvent des ouvriers, donc ils ont un solide bagage syndicaliste et ils sont souvent... pro d'une spécialité novatrice. Ils sont toujours un peu en avance sur leur temps. ou au moins à la pointe de la technologie. Donc, on a des typographes, des imprimeurs, des garagistes. Bono, c'est un garagiste de Lyon, donc c'est les premières bagnoles qui sont sur la route. Donc, en fait, ils savent conduire et réparer les bagnoles avant même qu'elles sortent des usines. Du coup, y a la presse qui est l'unique moyen d'information et de propagande. Et du coup, il y a beaucoup de petites arrière-boutiques dans les imprimeries qui tractent des messages anarchistes. La presse sert aussi, bien sûr, aux activités de faux monnayeurs, qui est très en vogue à l'époque. Et on parlera tout à l'heure d'Arsène Lupin. Il y a un petit journal, L'Anarchie, le premier, qui est situé à Romainville et qui est produit par une communauté d'idéalistes militants qui partagent tout, qui habitent ensemble. Ils possèdent des poules, un potager. Ils sont autosuffisants. Ils lisent, ils créent, ils impriment, ils distribuent. Et ils sont dans leur petite communauté animée par des vraies idées novatrices révolutionnaires. Alors, on a Victor Kroublevitch, dit Victor Serge, et Rirette Maître-Jean, qui en sont l'âme. C'est eux qui vont sortir ce petit journal. Rirette, c'est une jeune institutrice qui a déjà pas mal réfléchi à des réformes scolaires, dont celle de l'orthographe. Et elle s'est jurée d'accueillir chez elle la toute nouvelle internationale de l'anarchie. Et elle promet de servir d'asile à tous les militants de la cause dans le besoin. Ils ont beaucoup de savoir-faire. Donc Jules Bonneau, qui est le précurseur de l'attaque à main armée avec une fuite en automobile. Donc elle a une solide formation en mécanique de voiture, qui est très rare à l'époque. Il a d'ailleurs un réseau de garagistes belges et français, alors que la profession est méconnue. Il n'y a pas encore vraiment de garage. Jules Le Lyonnais est aussi un des premiers à utiliser des chalumeaux pour percer les coffres-forts. Et enfin, ils ont une très bonne connaissance des explosifs qui est indispensable à leur fabrication et à leur manipulation. Ils vont aller voler dans le lot de la police les 7 Browning semi-automatiques qui sont envoyés par les États-Unis, mais donc qu'ils arrivent à faire disparaître avant que le lot arrive au quai des Orfèvres. Oui.
Ça fait 30 minutes.
Là. Oui, écoutez, on va finir par le portrait de l'Arsène Lupin, enfin celui qui a inspiré Arsène Lupin à Monsieur Blanc, je ne sais plus si c'est Michel ou Marcel Blanc. Donc plutôt mourir de rire que vivre à genoux. Donc lui, il s'appelle Alexandre Marius Jacob. Donc Alexandre fut un cambrioleur très ingénieux, doté d'un incontestable sens de l'humour, et il était capable de faire preuve de très grande générosité, même à l'égard de ses victimes. Ah voilà, c'est Maurice Leblanc. Donc Maurice Leblanc s'en a inspiré pour faire son Arsène Lupin, mais l'auteur qui était là le nia énergiquement. Il est d'origine alsacienne, mais il est né à Marseille en 1871. Il signe dès ses 12 ans un engagement comme mousse. Il va déserter en Australie à Sydney et, parce qu'il dit que c'est trop dur et qu'il a connu trop de hauts et trop de bas. Et je pense qu'il avait dû résister au désir concupissant des marins parce qu'il était trop mignon. Et il dit « J'ai vu le monde, il n'est pas beau ». Il fait mention d'un bref épisode de piraterie auquel il aurait renoncé parce qu'en fait, il avait eu de la fièvre. Et d'ailleurs, il revient avec du paludisme à Marseille à 18 ans. Alors là, il va devenir apprenti typographe. Et du coup, c'est la porte d'entrée vers les milieux anarchistes. Il va y rencontrer la femme de sa vie, Rose. Et la fin de ce siècle est l'époque du conflit entre les socialistes et les anarchistes libertaires qui sont très présents dans le monde ouvrier à cette époque-là. Et même d'ailleurs, certains bourgeois se piquent de libertarisme. En fait, ce mouvement leur plaît, quoi, parce que c'est un mouvement de la création et donc c'est un mouvement qui génère énormément d'idées, d'inventivité, de créativité, de nouveauté et c'est porteur. Alors, d'un côté, il y a des légalistes qui tentent de parvenir au pouvoir. Et en fait, de l'autre côté, il y a les anarchistes qui pensent que la justice sociale ne se discute pas, mais qu'elle se prend. Alors, dans cette Europe de la Belle Époque qui suit la répression de la Commune, les révoltés prônent l'acte individuel pour rendre la justice. Donc, il y a beaucoup d'assassinats qui touchent les rois, les politiciens, les militaires, les policiers, les tyrans, les magistrats, un peu partout dans le monde. Et du coup, la Seconde Guerre mondiale va d'ailleurs démarrer suite à ce type d'attentat. Mais les actions favorisent les applications de lois qui vont devenir toutes plus répressives les unes que les autres. Donc, ils vont aussi, ça va aller trop loin. Le peuple ne suit pas les assassins, fussent-ils des assassins de flics ou de têtes couronnées. Donc, le terrorisme va rendre les anarchistes très impopulaires et va être la première nuisance à leur cause. Et puis, bien sûr, les mouvements vont finir par être noyautés par des indicateurs. Et puis, la police secrète qui va devenir puissante. Et tout ça va favoriser, malheureusement, une répression générale. Donc, déjà fiché, Jacob est compromis dans une affaire d'explosifs. Et du coup, il va être condamné à 6 mois de prison sous pression. Sa réinsertion va être difficile avec un tel palmarès. Et donc, du coup, il va rentrer dans l'illégalisme pacifique, puisque les bongs font peur au peuple, volons les bourgeois et redistribuons aux pauvres. Il va être arrêté à Toulon en 1899. Il va simuler la folie pour éviter la prison. Et il va s'évader de l'asile d'Aix-en-Provence avec la complicité d'un infirmier anarchiste lui aussi. Et il va se réfugier à Sète. Il va créer une bande qui s'appelle les Travailleurs de la Nuit. Donc on ne tue pas, sauf pour protéger sa vie, sa liberté et uniquement des policiers. On ne vole que les individus jugés parasites, c'est-à-dire les patrons, les juges, les militaires, les membres du clergé, mais jamais les professions utiles comme les architectes, les médecins ou les artistes. On reverse un pourcentage des gains à la cause anarchiste et aux camarades dans le besoin. Après, il faut définir qui est ou non dans le besoin. Son astuce était exceptionnelle. Pour qui était des cambriolages, il était le meilleur crocheteur de serrures, il était le meilleur perceur de coffres-forts, même très sophistiqué. Et ses qualités d'autodidacte ne failliront d'ailleurs jamais. Il a fait donc toujours preuve d'un grand sens de l'humour, c'est pour ça qu'il est populaire. Il signait toujours ses actes en déposant une petite carte au nom d'Attila. Et il laissait parfois des mots du style « Dieu des voleurs, recherche les voleurs de ceux qui ont volé les autres ». Il va voler des maisons, donc il se trompe de maison. En fait, il va voler la maison de Pierre Loti, donc il va remettre tout en place et il va laisser un mot en disant « Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. Attila, PS, 6 juin, 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. » Donc comme ça, il va commettre environ 500 cambriolages entre 1900 et 1903, donc c'est déjà pas mal, à Paris, en province et aussi à l'étranger. Et là, il dit qu'il fait de la décentralisation. Mais Jacob sut selon ses dires que le combat idéologique était perdu le jour où, essayant de convertir un ouvrier qui était prometteur à l'anarchisme, il obtient une réponse très significative « Et ma retraite ». Donc là, on tombe à pile dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc le combat socialiste prenait décidément le dessus sur la récupération individuelle. Et malheureusement, le 21 avril 1903, la bande de Jacob tue un agent et en blesse grièvement un autre. Et Jacob et sa bande est capturée. Et vous le savez maintenant, je suis un révolté vivant du produit de ces cambriolages. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Et on finira sur cette très belle parole. Et je pense que vendredi prochain, sera encore consacré à l'anarchie parce qu'en fait.
Il y a des choses à dire.
On ne connaît rien. Donc on va abandonner le communisme qui, clairement, a été un échec total, bien que pas non plus fait comme il fallait, évidemment. De toute façon, tout va de travers et rien n'est fait comme il faut. Mais je veux dire, si on reprend tout bien à la base et qu'on remet bien les choses comme il faut, je pense que. On peut la voir venir, cette société plus juste, égalitaire.
Ce serait bien, en tout cas, merci de nous apporter toutes ces connaissances et ce joli petit message d'espoir pour clôturer cette première partie.
Et du coup, pour refaire monter la vibe, un morceau éminemment trans qui va vous remettre les idées bien en place et la vibration très haute qui s'appelle Kemi Rocha. Hallelujah, Jabiraja, Hallelujah, Jabiraja, Hallelujah, Jabiraja.
κόμπους ρουάλι. Σήμερα ρε βοτκό που κατήκια. Αλλούλα και πιούνε μαρίνα. Ήε κι αμυρόκια. Ήε κι αμπομυρόκια. Αλλούλα και πιούνε μαρίνα.
Και μυρώ και
μυρώ και